C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour nos commissaires ce matin, évidemment, le premier sujet, le dépôt du projet de loi à Québec aujourd'hui de Christian Dubé pour permettre l'accès à un médecin de famille aux Québécois qui attendent et qui attendent sur des listes. Un projet de loi, habituellement, ça veut dire la manière forte. Le ministre parle de main tendue et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens dit que c'est pas la façon de trouver une solution concrète ou pratique pour l'ensemble des citoyens. Donc, est-ce qu'on va vers la méthode forte ou douce avec les docteurs? Nathalie.
Ben, Paul, ça sent la chicane. Ça sent la chicane. Ça fait des semaines que les partis se crêpent le chignon par médias interposés. Tu l'as dit, le dépôt d'un projet de loi annonce effectivement la méthode forte. Moi, je trouve ça bien dommage. Ça fait des années qu'on essaie de trouver une solution à l'accessibilité ou à... Ça fait des années qu'on tente d'améliorer l'accessibilité à un médecin de famille. Écoute, on a utilisé la carotte, le bâton. Là, ce qu'il va devoir, on va devoir sortir les cuillères de bois.
Bang! Cuillères de bois!
Ouais, ben voilà. Bang! Cuillères de bois, mesdames et messieurs. Ça va peut-être prendre ça, là, mais honnêtement, je trouve que le gouvernement, premièrement, se contredit dans ses messages. J'entendais Dr. Louis Godin à ton micro, là, qui représente les médecins omnipraticiens. Ils savent plus quoi penser, là. Et moi, ce qui me fascine, c'est que ils n'ont pas été du tout consultés sur le contenu du fameux projet de loi qui sera déposé aujourd'hui. Ils n'ont aucune idée de la direction que va prendre le gouvernement dans ce dossier-là. Je trouve que c'est totalement irrespectueux de la part du gouvernement, effectivement, qui dit une chose et son contraire. Ce qu'on sait cependant, c'est que la méthode forte, celle qui était privilégiée par le docteur Barrette, elle ne fonctionne pas. La preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 800 000 Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Plutôt que de s'améliorer, la situation liée à l'accessibilité à un médecin s'est détériorée. Alors, sachant que la méthode forte ne fonctionne pas, moi, je pense qu'il faut effectivement privilégier la méthode de la négociation, la méthode douce. C'est celle qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais selon moi, les résultats vont être plus durables. Le ministre de la Santé, rappelez-vous, a appelé un changement de culture dans le réseau de la santé. Ben, tu peux pas espérer un changement de culture si tu passes ton temps à sortir effectivement le bat de baseball puis cuillère de bois, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il faut être conséquent.
Moi, tellement pas d'accord, Nathalie, parce que finalement, la méthode dure, qu'on appelle la méthode forte, n'a jamais été essayée. Ce qui a été essayé, c'est de mettre un titre sur un projet de loi qui, lui, n'a pas été appliqué. Jamais. Le projet de M. Barrette était clair, là. Il y avait trois types de pénalités qui allaient être mises en place. Il jugeait qu'il y avait pas assez de... Il fallait vérifier si un médecin avait assez de patients. Il travaillait assez, il avait assez d'heures de pratique, puis s'il faisait passer ses patients par l'urgence ou la clinique, plutôt que par le bureau. Et s'il répondait pas à ces critères-là, il y avait des coupures salariales qui étaient envisagées de 30%. Mais M. Couillard a retiré M. Barrette des négociations au moment de faire passer cette loi-là. Fait que ce qui a surtout été essayé à date, c'est la méthode douce pas juste la méthode douce, les revenus. On a plus de médecins, plus de revenus, plus de primes, ça a été essayé à répétition. Récemment, il y a eu un institut de la performance qui a été mis en place pour essayer d'évaluer si on pouvait trouver des méthodes d'augmenter la productivité. C'était d'ailleurs un engagement de la FMOQ et ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas réussi. Alors, premièrement, moi je pense, donc, premier point, c'est pas vrai que la méthode forte a été essayée. Deuxième point, je pense pas qu'ils vont essayer la méthode forte parce que le projet de loi veut pas dire méthode forte. Le projet de loi veut dire passer par-dessus la FMOQ. Donc, ce qu'ils vont faire, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils consultent la FMOQ, consultent pendant différents groupes, pas juste la FMOQ, largement. Après, ils conçoivent un projet de loi. Après, ils le déposent, il est discuté en livre blanc, etc. Mais là, les élections s'en viennent dans un an. Le gouvernement a failli à la tâche et il est obligé d'aller plus vite. Puis d'ailleurs, je pense que ça fait partie un peu de sa culture. Il l'a fait avec les préposés aux bénéficiaires, il l'a fait avec les infirmières, il l'a fait avec les travailleuses en garderie. Il décide de passer par-dessus les représentants syndicaux ou les représentants, dans ce cas-là, corporatistes, pour dire « Moi, je vais faire une offre, je vais la déposer sur la table. Je suis tanné de me pogner les pieds dans le tapis avec les syndicats ou avec la FMOQ. Ça ne marche jamais, ça ne donne pas de résultats, mais je ne pense pas que ça va être la méthode forte parce que si c'est la méthode forte, il va perdre des médecins. Et il a démontré avec le rapport sur la décision sur le vaccin obligatoire dans la santé qu'il ne voulait pas perdre un seul médecin ou une seule infirmière. »
Mais tu vois, Luc, ce qui est désolant, c'est que le contexte ou l'ambiance que tu crées pour arriver à ton résultat est aussi importante que ce que tu mets sur la table pour atteindre ton objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que le climat ne favorise pas tellement le dialogue actuellement. Parce que là, lorsque le ministère de la Santé, le ministre dit, ben, et François Legault, premier ministre, a dit, ben, c'est la faute aux omnipraticiens, c'est la faute à la Fédération des médecins omnipraticiens qui ne collaborent pas. Puis de l'autre côté, t'as le ministre de la Santé qui, lui, entre le premier ministre, entre l'impatience manifestée publiquement par le premier ministre et la FMOQ, essaie de temporiser les choses. Mais dans le fond, le problème, quel est-il, là? On a 800 000 médecins qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Je pense que c'est vain de croire que 100 % des Québécois au Québec vont avoir accès à un médecin de famille. Ça, je pense qu'il faut oublier ça. Cependant, ce que Dr. Godin disait à ton micro, Paul, c'est comment sans avoir un médecin attitré, si tu en as besoin, est-ce que effectivement tu pourrais avoir plus facilement accès à un médecin? Sur 10 000 médecins omnipraticiens au Québec, le problème, provient de 1 500 qui ont 500 patients et moins et travaillent 150 jours par année. Bon, alors si c'est ça le problème, comment on peut effectivement composer sur cette patinoire-là? Parce que là, dans le fond, on est en train de ternir l'ensemble de la réputation, alors que finalement, le problème n'est peut-être pas si insoluble que ça, là, entre nous, là.
Ben, écoute, moi je pense qu'il est insoluble, puis que ben, il y a eu une amélioration quand même, parce que quand Barrette avait déposé sa loi coup de poing, là, sa loi 20, il y avait 60% des médecins de famille qui travaillaient moins de 175 jours.
Oui,
la moyenne de travail était 117 jours. Fait que ça s'est amélioré.
Mais
il faut faire un changement de culture. Les médecins se voient comme des entrepreneurs. Tu sais, moi, je donne mon temps. Un peu à droite, un peu à gauche, un peu dans le privé, un peu dans le privé.
Ils le sont, là, qui peuvent s'incorporer. Hein,
Mais ce ne sont pas des vrais. Un entrepreneur, là, le marché, là, ça veut dire que tu peux faire faillite. Quand tu te lances en entreprise, tu peux faire faillite, tu peux tout perdre. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui contrôles les revenus, dans le sens où les clients peuvent ou ne peuvent pas venir. C'est pas toi qui contrôles l'offre, parce que des nouvelles entreprises peuvent s'installer à côté de toi puis te faire concurrence. Ces deux critères fondamentaux-là de l'entrepreneuriat sont absents du système de santé. Tes revenus sont garantis par l'État parce qu'il y a tout le temps un flot de gens qui viennent à ta porte parce que c'est gratuit pour eux. Puis, l'État contrôle l'offre. Il contrôle le nombre de nouveaux médecins qui rentrent. Alors, tu n'es pas un entrepreneur. Tu n'en es pas un. Par ailleurs, les opérations de santé doivent être planifiées. C'est nécessaire de planifier les opérations de santé pour s'assurer que les urgences fonctionnent 24 heures par jour et que les blocs opératoires fonctionnent, etc. et que les salles obstétriques fonctionnent aussi. Donc, ça doit être planifié. Alors, planifier des opérations dans le détail, avec des gens qui décident de leur propre horaire, ça ne fonctionnera jamais.
Ma crainte, là, c'est que la solution qui sera mise sur la table ce matin serve des intérêts purement électoraliste, c'est-à-dire que on va tenter de trouver une solution à court terme, mais le problème va demeurer entier. Le ministre de la Santé, là, qui se présente comme un gestionnaire maintenant, doit passer du gestionnaire au visionnaire. Moi, lorsqu'il me dit, il nous dit là, comme citoyen, écoutez, il faut changer la culture du réseau. Là, il y a plein de gens qui adhèrent à ça parce qu'effectivement, on arrive à tous au même constat. Le ministère de la Santé, c'est devenu, tu le dis affectueusement, Paul, un mammouth. Écoute, c'est dur là de faire bouger un mammouth. Alors, quand le ministre de la Santé nous dit, il faut changer ça, moi, je vais applaudir à ça. Maintenant, il est poussé par l'échéancier électoral. Alors moi, je dis, monsieur le ministre, prenez un petit peu plus de temps. Il faut effectivement réformer la première ligne. Il y a trop de fardeaux qui reposent sur le rôle des médecins de famille. Première ligne, on l'a dit combien, nauséam, un patient peut voir une infirmière clinicienne, il peut voir une super infirmière, une infirmière praticienne. L'autre chose, les médecins spécialistes peuvent être davantage mis à contribution pour ce qui est du suivi des opérations. On oblige un médecin, un étudiant qui sort de médecine de faire 15 ans d'hospitalisation. Pourquoi il ne pourrait pas en faire 7 plutôt qu'en faire 15 ou en faire 10 plutôt qu'en faire 15? Vous voyez, tout ça ensemble.
J'en rajouterai une, Nathalie. Les nouvelles règles appliquées pour les consultations virtuelles ou téléphoniques.
Oui, les télémédecines et tout ça.
Donc
là,
ça,
oui,
ça en serait une autre.
Oui, tu as raison.
Ouais. Puis aussi, exiger que des minimums pour les médecins qui décident de faire une partie de leur pratique au privé puis une partie au public. T'sais, c'est pas un bar ouvert, là. Faudrait que ça soit un choix clair pour le public avec un minimum d'heures pour le public.
Ouais, moi, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Et j'espère que que ça ne sera pas une occasion manquée, ce projet de loi qui sera déposé, et que le gouvernement va manifester une volonté de s'attaquer au fond du problème, au fond de la question, parce que j'ai l'impression qu'on va en parler longtemps, là, si
mais
on
là, quand tu
pas
dis,
le fond du problème.
Un médecin n'a pas le choix, il est privé ou il est désengagé ou il travaille à l'hôpital dans un GMF ou il enseigne, non?
Oui, il y a un minimum d'heures pour le public, il y a un minimum d'heures pour le public, mais il peut aussi avoir des tâches à l'extérieur du public. Par exemple, si dans les 15%, les cas des 15% qui ont seulement 500 patients, là, c'est clair qu'ils ont choisi d'avoir soit un autre emploi, soit d'avoir laissé une partie d'avoir plus de congés, mais il n'y a pas un minimum exigible pour l'instant.
Non, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs.
Oui, c'est ça.
On va voir cet après-midi les détails du projet de loi. OK, on va s'arrêter pour la pause et puis au retour, on va parler de l'intimidation en politique. On sait que c'est un fléau. Il y a des gens qui ne se représentent pas à cause de ça. Mais avec l'arrivée de femmes en nombre important, est-ce qu'elles sont davantage ciblées par les commentaires haineux sur les réseaux sociaux?
La commission Normando-Ferrandaise.
De l'intimidation, des messages haineux, c'est le lot et le quotidien de beaucoup d'hommes et de femmes en politique. Et la question qu'on pose ce matin, est-ce que les femmes sont plus victimes même que les hommes? Luc commence.
Moi, je suis persuadé que non, mais avant, il faut quand même parler de, selon un reportage de Radio-Canada qui a été fait, notamment au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a cette candidate, là, Jenica Atwin, qui est passée des Verts aux libéraux, parce qu'elle avait notamment dénoncé Israël dans le conflit israélo-palestinien, et elle s'était fait rabrouer par le chef de cabinet des Verts. Et donc, elle est passée chez les libéraux. Et là, elle a eu, semble-t-il, un vent d'insultes. C'est là que c'est né pour elle le harcèlement. Ça a commencé avec ça. Un harcèlement là, qui n'en finissait plus, extrêmement violent. Avec notamment des gens qui écrivaient « Envoie-moi tes affiches électorales, j'ai besoin de ta face pour me pratiquer au tir au fusil dans mon coin ». Et des gens qui, après ce premier message haineux-là, qui renchérissaient dans ce style-là, tu sais. C'est à la fois dangereux, violent, on sent qu'il y a une menace à travers ça, une attaque possible à l'intégrité physique de la personne. Puis d'ailleurs, le reportage cite une étude qui dit que chez les femmes, l'insulte s'approche souvent de la menace à l'intégrité physique. C'est des menaces à caractère sexuel, référence au viol, etc., etc. Bon, c'est, moi, j'ai aucun doute que ça porte plus sur le corps des femmes quand il s'agit des femmes, leur intégrité physique est menacée. J'en ai aucun doute parce que c'est ça que font les haineurs. Les gens, les haineurs, ça n'existe pas le mot, mais les haïsseurs, mettons. C'est les gens qui haïssent cherchent à faire peur, cherchent à menacer. Et c'est la même chose avec les hommes. C'est sauf que peut-être que les hommes ressentent moins, mais c'est la même chose. La plupart des gens qui se font accuser, attaquer, par exemple, par le mouvement QAnon aux États-Unis, on les traite de pédophiles. La première insulte, c'est ça. La base du mouvement, d'ailleurs, c'est de prétendre que les démocrates feraient partie d'un mouvement de pédophiles organisé par les Clinton, que Biden en ferait partie, etc. Dès que tu as quelque chose qui ne plaît pas et que la personne t'attaque de façon anonyme, c'est pour te faire mal. Et donc, c'est ce mal-là, il est pareil, menace de mort, etc., que ce soit pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, je signale que à la dernière élection municipale, c'est Ballarama Holness qui s'est fait menacer de mort. C'est pas Valérie Plante. Et si
mais remarque qu'elle avait eu son lot, elle, pendant un bon bout de temps, par exemple.
D'insultes, oui, gros nez, menteuse, etc., etc. Ben oui, mais
Au début de son mandat, probablement.
C'est clair. Il y en a autant pour les femmes que pour les hommes, il y en a pour tout le monde.
Ouais. Mais ce qui est assez étonnant dans cet article auquel Luc réfère de Radio-Canada, c'est qu'il y a des études aux États-Unis, effectivement, qui semblent démontrer que les femmes qui sont en politique sont davantage victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux que les hommes. Moi, je suis comme Luc, je suis par rapport au Québec, ce qui se passe ici, je suis plutôt sceptique. Mais ce qu'on sait cependant avec cet article publié par Radio-Canada, c'est que la réalité des femmes qui se font en politique, se font intimider sur les réseaux sociaux, c'est pan-canadien, là. C'est pas juste au Québec, là. Il y en a partout au pays. Mais c'est triste de le dire, hein, mais la haine sur les réseaux sociaux, c'est une industrie. Et c'est une industrie qui sert très bien les Facebook de ce monde. Faut pas oublier que la façon dont les algorithmes sont conçus contribue à nourrir cette haine. Et c'est ça qui est terrible parce que, dans le fond, sciemment construit les systèmes pour faire en sorte que, évidemment, on dit que le mouvement complotiste est beaucoup né de ça et la haine qui l'accompagne. Mais pour ce qui est des femmes en politique, je peux confirmer que le double standard existe. Et dans les réseaux sociaux, évidemment, ça prend une ampleur qui est différente. Et Luc, tu as tout à fait raison d'affirmer qu'on s'en prend à l'intelligence des femmes, à leurs compétences, à leur apparence, à leur intégrité. Puis je trouve ça désolant parce que en 2021, je me dis, mon Dieu, il me semble qu'on... je pensais qu'on avait fait des progrès. Cependant, ce qui me réjouit, ce qui me rassure également, c'est que ça n'a pas empêché certaines femmes de faire le saut en politique municipale. On le voit, là. Et même chose au fédéral, au provincial, malgré ce contexte extrêmement difficile qui pourrait être dissuasif chez les femmes, elles persistent et signent. Et puis, on l'a vu, là, c'était un vent de fraîcheur, toutes ces femmes qui, maintenant, seront mairesses de grandes villes au Québec. Alors, ça ne les empêche pas de faire ce qu'il faut. Et Catherine McKenna, ex-ministre de l'Environnement fédéral, qui a souvent été sous les feux des projecteurs, écoute, elle s'est même fait vandaliser sa maison, sa propriété, là. Elle racontait dans cet article là, qu'elle se promène sur la rue avec ses enfants, puis un homme qui vient là l'agresser verbalement. Là, elle a peur. C'est terrible, exercer ton métier avec la peur au ventre. Je trouve ça épouvantable. Et là, quand c'est rendu là, je me dis, écoute, on a franchi des limites qui ne sont pas acceptables. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens qui persistent et signent sur le harcèlement en ligne, que ce soit homme ou femme, ne voient pas leur compte suspendu. On a l'impression, c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes qui appellent à la responsabilité des grands réseaux sociaux de ce monde, là, Facebook et tout ça, en disant qu'est-ce que vous attendez effectivement pour passer à l'action? Parce que c'est un crime devant la loi. On a vu au Québec, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés, mais à un moment donné, c'est comme ça devient, puis on en parle souvent parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans notre société, qui est dissuasif pour certains. Rappelez-vous le nombre de personnes, entre autres, qui ont décidé de quitter la politique municipale, des maires qui ont dit, moi, je décroche, là, c'est terminé. Entre autres, le maire, c'est le maire de Granby, je crois, qui a décidé, garde-moi. Lui, il s'est même fait là, attaquer physiquement lors d'un événement. Il s'est fait lancer une grosse pierre par la tête. Là, et heureusement qu'il l'a évité. Mais enfin, il y a toutes sortes de cas comme cela où tu dis, moi, j'ai pas connu cette époque-là, honnêtement. Luc, je sais pas toi si tu l'as connu,
non,
parce que tu étais maire.
Mais moi, il y a une couple de gars.
On se faisait ramasser des fois, là, mais tu sais,
c'est arrivé, là, des mondes qui viennent sonner chez nous la nuit, puis un gars qui essaie de me foncer dessus en auto, ben tu sais, il m'aurait pas atteint, là, il faisait juste le move pour montrer qu'il aurait pu le faire.
Ben quand même.
Ouais, bon, c'est, oui. Mais tu sais, moi je pense que c'est pas toutes les femmes qui se font accuser, c'est pas tous les hommes qui se font insulter
c'est
non
sûr,
plus.
C'est sûr.
Regarde, t'as raison de dire que le vent de changement, là, on a vu avec les femmes en politique municipale, accueillies comme des héroïnes, toutes jeunes, pas d'expérience, puis accueillies comme des héroïnes. Et go, là, tu sais, on en veut, là. Et moi, je pense que c'est plutôt ça, la tendance. La tendance, elle est là. Et même cette tendance-là, je trouve que des fois, elle prend des proportions. Oui, il faut corriger la situation. Je dirais pas inquiétante, mais particulière. Là, Valérie Plante, elle n'a pas, à ma connaissance, il y avait seulement un nouveau candidat masculin sur tous les nouveaux candidats. Tous les nouveaux qui ont été élus sont des femmes.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que la recherche de la parité, pour toi, c'est...
Elle a été largement dépassée, là, regarde, par exemple, dans la parité, si tu regardes les arrondissements un par un, de mémoire, là, Annecy, il doit y avoir un gars parce qu'il était déjà là. Plateau-Mont-Royal, il y en reste 1/7. Plateau-Mont-Royal, 2/7. C'est la parité est immensément dépassée, là.
C'est une bonne nouvelle. On fait la vague, Luc, non? Oui?
Oui, à un moment donné, il faut faire la vague. Tu sais, les vagues, comment que ça se passe, hein? La vague, elle monte, puis après ça, redescend un petit peu, là. C'est comme ça, les vagues. Fait que oui, il faut pousser fort.
Toi, tu trouves qu'il manque de gars dans l'environnement de Valérie Plante?
Ben, c'est clair. C'est clair que Valérie Plante, elle en a fait une mission personnelle, là, de montrer des femmes. Et c'était très bien à l'époque où il manquait de femmes. Là, maintenant, on va être dans une situation où il va manquer de gars. Et c'est correct. Parfait, c'est correct, une vague, les mouvements, tu sais, c'est pas calculé au couteau, ces affaires-là, au pourcentage. Mais à un moment donné, il va y avoir un rééquilibrage. Mais pour l'instant, on n'est pas dans une situation où les femmes sont rejetées de la politique. C'est ça mon point. C'est tout le contraire. Les femmes sont attirées.
Il ne faudrait pas que ce soit ça.
Actuellement, c'est le contraire. Faut dire. Actuellement, c'est le contraire.
Ouais. Mais faut voir d'où on est parti.
Et que si tu es un homme blanc de 50 ans, tes chances de te faire élire sont infiniment moins grandes que si tu es une femme de 30 ans. C'est ouais, ça
mais faut
la
voir d'où on est. Oui, mais je suis d'accord, Luc, mais il faut voir d'où on est parti, les femmes.
Oui, d'accord.
Pour arriver là où on y arrive aujourd'hui, tu comprends?
C'est correct. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement actuel, la tendance actuelle, le contexte actuel n'est pas un contexte de rejet des femmes en politique. Il y avait une des candidates qui, disait, dans son reportage au Nouveau-Brunswick, elle disait, si t'es une femme, on n'écoute pas ce que tu dis. Il me semble qu'on est passé un peu plus loin que ça.
Mais moi, je serais porté à croire, par exemple, que les attaques les plus
vicieuses
en politique sur les réseaux sociaux, ce sont les femmes qui reçoivent.
Oui, parce qu'elles font appel à leur... Elles menacent leur intégrité physique. Elles parlent de
viol. Mais parce qu'elles dérangent. Puis des gens là, qui regardent ça, puis que c'est pas vrai qu'une femme va me dire quoi faire, là, il y en a beaucoup qui pensent
il y en a,
encore.
Voilà. Il y en a énormément. Ouais.
Puis, ben parce que, en fait, ce que les études démontrent, Paul, c'est que plus tu es femme là, en politique, plus tu es visible, plus tu fais l'objet de critiques et de menaces.
C'est puis sûr. Tu, quand tu prends ta place aussi, en vélo, là, demandez ça à une femme qui roule vite en vélo. Là. Les femmes qui dépassent les gars en vélo, là, demandez-leur comment ça se passe dans la vie.
C'est quoi la réponse?
Le gars va tout le temps... Beaucoup de gars vont accélérer pour leur dépasser.
Ah! C'est de même en voiture aussi, en passant.
OK, merci. On vous retrouve demain. On aura le rapport de la commission, puisque c'est vendredi.
C'est 23.